Nous allons prendre un texte d'introduction. Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Ça rejoint un petit peu même ce que notre frère Manu vient d'exprimer au travers de sa prière. On y reviendra tout à l'heure. Et si on n'a pas encore compris que le Seigneur est au contrôle et qu'il a un fil conducteur pour l'église d'Istres, c'est qu'on n'a pas compris qu'il tient l'univers même dans ses mains, il est au contrôle de toutes choses. Et croyez-moi, ce qui se passe en Ukraine, le Seigneur est également au contrôle et il est en train de sauver des centaines et des milliers de personnes, des Ukrainiens. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé ». Éphésiens chapitre 6, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église qui se trouve dans une ville appelée Éphèse. Et il s'adresse aux chrétiens et aussi au 21e siècle encore aujourd'hui, eh bien cette parole est pour nous. Et l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Notons ici que ce n'est pas une option facultative, mais bel et bien un ordre que Paul nous adresse. Il nous encourage à faire quoi ? On l'a lu ensemble, à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que la force de Dieu, elle est toute puissante. Et d'ailleurs, même cette force toute puissante, Dieu l'a manifestée, Dieu l'a révélée, Dieu l'a démontrée à qui veut bien, la voir, au travers de la création qui nous entoure. Il suffit juste d'avoir des yeux, de s'arrêter, parce que la société va tellement vite aujourd'hui, mais pour s'arrêter sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et découvrir que, oui, plus qu'un Big Bang, plus que le hasard pour certains, il y a une volonté, et ce n'est pas seulement un homme, mais plus qu'un homme, le Dieu créateur du ciel et de la terre s'est employé à pouvoir créer cet univers si immense. C'est ce que rappelle encore l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1 et le verset 20 quand il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, entre autres sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde » quand on les considère dans ses ouvrages, et il rajoute, ils sont donc inexcusables. Qui est inexcusable, si ce n'est ceux, celles, qui jusqu'à maintenant se refusent de comprendre qu'en levant la tête, ils découvrent un Dieu qui règne sur toute chose, qui est souverain maître, et qui est surtout tout puissant, que son nom seul soit béni. Alors que je préparais ce message, je pensais à cet ordre que Dieu a laissé au premier être humain qui est venu sur cette terre, Adam. À un moment donné, Dieu a mis Adam au travail et lui a dit « Tu donneras un nom à tous les animaux qui viendront devant toi. » Et je me rends compte que Adam n'a pas terminé ce travail. Vous savez qu'à l'époque, on vivait assez longtemps. Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Mais malgré ces 930 années, il n'a pas eu assez pour pouvoir désigner tout ce que Dieu avait créé. Et je vais même plus loin avec vous. Jusqu'à maintenant, les hommes, des scientifiques, pour certains, passent même toute leur vie à étudier, à découvrir des nouvelles espèces d'animaux, de mammifères, d'insectes. Je ne me rappelle plus le nom, mais par jour, on découvre dans l'Amazone profonde des nouveaux insectes, des nouvelles bestioles. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles sortent. Tout ça pour nous montrer la grandeur, la toute-puissance de notre Dieu. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, qui est devenu notre Père, il est tout-puissant. Il faut le dire à votre voisin, Dieu est tout-puissant. Sois dans la paix, Dieu est tout-puissant, il est au contrôle de toutes choses. Oui, le Dieu qui est devenu notre Père, il est tout-puissant. Et ça veut dire pour nous que pour lui, rien n'est impossible. Et s'il y a bien une force qui ne faiblira jamais, c'est celle de notre Dieu. Et Dieu seul sait que nous avons besoin de cette force, frères et sœurs, pour continuer la route. On a besoin de cette force pour vivre ce qu'on a partagé dimanche dernier, donc la vie de prière. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu pour marcher comme Enoch a marché 300 ans. On a besoin de la force de Dieu pour pouvoir même élever la voix et louer le Seigneur. On a besoin de la force de Dieu pour, j'aime à le dire, marcher à contre-courant de ce monde. Parce qu'il n'est pas question pour nous d'embrasser les pensées de ce monde qui va directement à l'encontre de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous révèle. Il faut véritablement être équipé de la force de notre Seigneur Tout-Puissant. Et ce matin, le Saint-Esprit désire nous rappeler que cette force toute-puissante elle est à notre disposition. Dieu l'a même accordée à son Église. Dieu la dispense à ses enfants. Et pour vous le prouver, regardez ce qu'il est dit dans le livre des Psaumes au chapitre 29 et le verset 11. Psaume chapitre 29, verset 11, ce sera vraiment le texte bien d'introduction de ces moments. Psaume chapitre 29, verset 11, la première partie surtout. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple, amen aussi on peut dire, et le rend heureux. Êtes-vous heureux ce matin ? Ce petit cœur qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Frères et sœurs, si vous êtes sauvés, si vous savez sauver ce matin, vous êtes heureux. Qu'il y ait l'inflation ou pas, que eh bien, justement le prix du gasoil monte, bon, ok, mais je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Mais là où je voudrais m'attarder avec vous, c'est ce que nous avons lu, la première partie de ce verset. L'Éternel donne la force à son peuple. Et Dieu communique la force à son peuple pour plusieurs, pour multiples raisons. Et je voudrais, bien sûr, bien en sélectionner quelques-unes pour vous et partager dans ce sens. La liste ne sera pas exhaustive, vous l'avez compris, mais je voudrais juste retenir trois raisons pour lesquelles Dieu, dans son immense amour, nous communique sa force. La première raison, elle est assez simple. Dieu communique sa force pour que nous soyons les uns et les autres vainqueurs sur toutes nos fatigues. Et il y a peut-être même ce matin quelqu'un qui se sent fatigué, qui est sans force. Je ne parle pas là de fatigue naturelle, parce que la réponse ou le remède à cela, ce n'est pas compliqué. Il faut juste aller faire une belle sieste et puis on est reparti. Ou non ? C'est juste du bon sens. Il ne faut pas toujours... Juste bon sens te permet, tu es fatigué, mon frère, ma soeur, repose-toi. Repose-toi. Mais là, je parle effectivement de fatigue chronique, des fatigues qui peuvent être d'ordre physique, d'ordre émotionnel. Il y a des gens qui sont fatigués moralement. Il y a des personnes même sur le plan spirituel qui sont fatiguées. Et on voit, par exemple, dans la Bible, même le roi David a connu en son temps un état de fatigue chronique. Pourquoi je dis cela ? On va lire ensemble le psaume chapitre 6, verset 3. Je vous laisse le temps de le chercher. Je bénis le Seigneur parce que David a voulu avec nous être sans filtre. Rappelez-vous que tous les psaumes qu'il a exprimés sont aussi des cantiques qu'il avait certainement l'habitude de jouer avec sa harpe devant tous. Mais quelque part, il livrait son quotidien, il livrait sa vie. Et on peut bien souvent se retrouver au travers de ce que annonce David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a été bien souvent vrai. Il le dit par exemple, et là il est transparent avec lui-même. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Et peut-être que c'est la prière de quelqu'un ce matin. Et ne soyez pas complexés, ne soyez pas culpabilisés, car si David, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu ces moments où il a été sans force, croyez-moi, ces choses peuvent aussi nous arriver. Regardez même un peu plus bas, toujours au chapitre 6, au verset 7. Psaume chapitre 6, verset 7. Il continue et David dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » David l'est pour nous, même l'intimité de sa chambre. Parce que devant, effectivement, tous ces sujets, pas question de montrer qu'il est fatigué. Mais là, seul dans sa chambre, là, il peut enlever toute forme de masque. Et il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Il y a des larmes qui sont secrètes et que Dieu respecte. Il y a des larmes qui correspondent à des souffrances qui sont là bien présentes. Ce matin, Dieu est venu te rencontrer, mon frère, ma soeur. Et c'est lui-même qui va essuyer tes larmes et te renouveler. Et peut-être que ce qu'a connu David est l'expérience d'une personne qui se trouverait en ces lieux. Oui, tu es sans force. Tu es épuisé. Tu es éreinté. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de burn-out. Burn-out au travail. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi burn-out parental ? On peut aussi même parler de burn-out maternel. Il y a des femmes qui viennent juste d'accoucher, puis elles n'en peuvent plus, elles ont du mal avec leur enfant. Il y a comme un burn-out. Et croyez-moi, on pourrait rallonger la liste et parler aussi de burn-out sur le plan spirituel. Il y en a qui sont fatigués parce que ils se battent avec des souffrances qui sont là et qui perdurent depuis bien longtemps. Et comprenez qu'à la longue, ça peut finir par user. On ne sait plus d'ailleurs comment prier, on ne sait plus que dire, et il y a un état de fatigue qui est là, émotionnel, spirituel. Dieu voit toutes ces choses. Il n'est pas indifférent à toutes ces choses. Et parce que, justement, on l'a partagé vendredi soir, parce que Dieu n'est pas un homme, eh bien, il peut entendre les cris, et même lire les larmes, l'interprétation de nos larmes qui pourraient couler sur nos visages. D'autres sont épuisés et ne savent même pas pourquoi. Ils aimeraient en trouver la source ou l'explication. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont émotionnellement fatigués. Ils se lèvent le matin et c'est une mine à 95. Ils n'osent pas se voir dans le miroir de la salle de bain. Et c'est un drame. C'est un drame. Je ne sais pas s'il faut rire. Je ne sais pas. Mais Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça, frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à vous qui êtes fatigués. Frères et sœurs, toi qui es fatigué ce matin, peut-être toi, cher ami qui est là, qui vient parmi nous depuis quelque temps, toi qui es fatigué, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu désire te communiquer sa force divine. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, quelle que soit la tourmente que tu es en train de traverser. Peut-être avant de vous lire un texte qui confirme ce que je suis en train d'avancer, il faudrait aussi qu'on puisse se rappeler, justement concernant les épreuves, ce que l'apôtre Paul a dit par l'action du Saint-Esprit. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Il y a comme cela dans la Bible, comme des versets clés. J'ai l'impression que toute la Bible sont des versets clés, mais il y a des versets spéciaux qu'il nous faut bien méditer, peut-être même quelquefois apprendre par cœur. Regardez ce qu'il est dit dans ce verset 13 du chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle et dit: aucune tentation. Alors là, très rapidement, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Quand vous voyez le mot tentation, c'est exactement le même mot pour exprimer l'épreuve. Alors on aurait pu même mettre aucune tentation ou même aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est là, pour nous, deux grandes vérités que Dieu nous laisse, mais qui sont également deux grandes promesses. Et c'est à nous de les savoir, parce que si on ne les sait pas, le diable va jouer dessus pour, justement, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on traverse l'épreuve, eh bien, on soit terrassé. Dieu ne veut pas qu'aucune personne d'entre nous, nous soyons terrassés par l'épreuve. Il rappelle deux grandes promesses. La première, c'est qu'il n'y a aucune tentation ou aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces. Ne laissez pas le diable vous dire que si ça continue, ça va m'écraser. Et ne le confessez même pas, parce que Dieu est fidèle. Et si vous sentez un peu le feu, comprenez que le Seigneur est au contrôle et il a réglé le thermostat. Excusez-moi l'expression. Oui, c'est vrai, vous sentez la chaleur, mais ce n'est pas une chaleur qui va vous détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Allez, je vais faire une petite image. Quand la cuisinière, ou le cuisinier, attention, il a fini son beau gâteau, il a fini sa pâte, la cuisinière place tout ça dans un four qui a été préchauffé, et elle a réglé le thermostat. Elle dépose son four gentiment, et elle referme. C'est l'épreuve. La pâte est soumise à l'épreuve. Et il faut que ça cuise. Mais la cuisinière, quelquefois, elle regarde. Si c'est trop fort le feu, qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, aidez-moi les femmes là. Elle baisse. Elle le fait à merveille. Quand le gâteau ressort du four, c'est parfumé. Les enfants disent le mari dit Après, je ne vous raconte pas le reste. Hein. C'est exactement avec l'épreuve. Il te fait passer l'épreuve parce qu'il veut une transformation dans ta vie. Des choses qu'il n'a pas le temps de t'expliquer. Parce que lui, il est hors du temps, mais toi, tu es dans le temps. Donc, tu auras peut-être même le temps de mourir avant qu'il ait fini de t'expliquer ce qu'il veut faire avec toi. Il faut juste lui faire confiance. Il a mis le thermostat, il a mis tout ce... Et il t'explique, au travers de ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il ne me permettra pas que l'épreuve soit au-delà de tes forces. Okay ? La deuxième promesse qu'il nous rappelle, quand on vit l'épreuve, Mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué, comprends bien ces choses. La deuxième chose, c'est que toujours avec l'épreuve, le Seigneur, il place pour toi une porte d'espérance. Il y a toujours une issue de secours. Il y a toujours un moment donné où l'épreuve cesse. Alors pour certains, à l'extrême, c'est à leur mort. Mais le Seigneur a bien obligatoirement, nécessairement prévu une porte d'espérance. Et il faut que dans le creux même de la vague, quand tu connais même l'épreuve, tu puisses toujours regarder à l'espérance qui est attachée, alléluia, à la personne de Dieu. Un peu comme Job, quand il va dire, mais même quand mon corps sera détruit, je sais que mes yeux le verront. Vous voyez, il voyait déjà la porte d'espérance qui se dessinait. Et il a eu le temps de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est important, et je referme donc la parenthèse concernant ce point. Quand tu traverses l'épreuve, mon frère, ma sœur, rappelle-toi de ce passage 1 Corinthiens 10, verset 13. Toujours est-il, la Bible nous rappelle que Dieu renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Je voudrais vous le prouver maintenant, Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Et c'est clair, c'est net et précis. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur, l'énergie de celui qui tombe en défaillance. Quelquefois, on nous propose des médicaments pour rebooster tout ça, style Béroca et compagnie. Mais quelquefois, ce n'est pas efficace. La fatigue est toujours là, parce que quelquefois, elle est d'ordre spirituel. Mais Dieu, il renouvelle nos forces. Il nous donne la vigueur du buffle, excusez-moi l'expression. Et il nous fortifie, nous renouvelle. Il nous est dit au verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. J'ai envie de vous dire, fermez les yeux et regardez l'aigle qui surplombe même les tempêtes. Il est là et il se rit des éclairs qu'il voit au-dessous, donc de son vol majestueux. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Toi qui es lassé ce matin, toi qui es renté, toi qui es spirituellement fatigué. Mais la question est, le crois-tu? Vous savez, on s'habitue à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prendre garde de la manière dont nous écoutons. Elle devient même indolore. Elle n'arrive pas à pénétrer au plus profond de notre cœur. Dieu a déjà dit à son prophète, tu diras telle chose, mais sache qu'ils n'écouteront pas. Et il nous faut avoir des oreilles pour entendre. Et ce matin, Dieu te dit, il a le pouvoir de faire cesser cette lassitude, cette fatigue qui n'arrête pas de t'écraser jour après jour. Mais le crois-tu? Parce que la foi est importante dans cette affaire. Et on l'a lu d'ailleurs au verset 31, si on peut le reprojeter, Pierre. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est dans la mesure où, Seigneur, tu l'as dit, mais je te fais confiance. Alors que nos forces vont être renouvelées. Vous le comprenez? Et quand on fait confiance au Seigneur, Seigneur, même si je ne comprends pas cette fatigue, même si je suis là à traîner les pieds, Seigneur, je veux saisir cette promesse que tu me donnes. Tu as dit que tu me donnes la force, alors je te fais pleinement confiance. Et dans la mesure où nous aurons cette attitude, frères et sœurs, les choses vont commencer à se débloquer. Les choses vont commencer à se... Peut-être que vous n'allez pas le voir à l'instant même, mais dans l'invisible, le processus est amorcé. Dieu peut dire, ça y est, il a compris. Parce que Dieu réagit à notre foi et son bras se manifeste quand nous choisissons de lui faire confiance. Vous l'avez compris, se confier en Dieu, c'est se reposer sur lui. C'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je crois ce que tu me dis. Ta parole, elle dit ça, alors je m'y attache, je m'y applique, je serre cette parole dans mon cœur jusqu'à ce que je la vois se manifester. C'est aussi l'espérance. L'espérance et la foi sont intimement liés. D'ailleurs, la foi, c'est quoi? C'est, comme dit le livre d'Hébreux. Comment? Dit Hébreux, chapitre 11. On va le lire, verset 1. Alors? Oui, Sylvain? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'espérance et la foi sont intimement liées. Il faut toujours espérer. Moi, je le dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je disais à quelqu'un, un frère, au téléphone, La Bible dit même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et nous avons de quoi espérer en notre Dieu. Il est le Dieu qui peut tout. Et il nous l'a rappelé, il est celui qui est tout puissant pour intervenir dans n'importe quelle situation, parce que pour lui, rien n'est impossible. Lorsque nous nous confions en Dieu, voici ce qui risque d'apparaître dans nos vies. Psaume chapitre 84, les versets 6 et 8. Psaume chapitre 84, versets 6 et 8. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Autrement dit, heureux ceux qui se confient en toi. Premièrement, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand je commence à faire confiance à Dieu, des chemins se tracent au plus profond de mon cœur. Dieu va commencer à me parler, me dire, tu sais, tu es dans la tourmente, mais voilà, je vais te montrer comment en sortir. Dieu commence à nous parler. C'est par le biais de la foi qu'on peut s'approcher de Dieu et que Dieu, en retour, peut pleinement aussi s'approcher de nous. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Baca veut dire lieu de tristesse, lieu de larmes. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est qui il ? Eh bien, ce sont ceux et celles qui se confient en l'Éternel. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et comment il la transforme ? Parce qu'ils ont choisi de placer leur confiance en Dieu. Et c'est ce que dit le livre des Psaumes, au chapitre 23. « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Et quand Jésus est avec nous dans la fournaise, frère, tout va bien. Tout va bien, sœur, tout va bien. Allez demander à Shadrach, Meshach et Abednego, s'ils n'étaient pas bien, eh bien de pouvoir vivre la fournaise, parce qu'il y avait un quatrième homme dans le feu. Et c'est qui cette quatrième personne ? Si ce n'est le Seigneur Jésus. Vous savez, vous n'avez pas remarqué dans le texte ? C'est le roi qui leur a dit de sortir. Ils étaient bien. Ils vivaient le miraculeux. Même leur linge n'était pas brûlé, frères et sœurs. Là où on grandit le plus, c'est dans ces moments d'épreuve. Où on est dans la présence de Dieu. Là où on vit, eh bien, avec le Seigneur, la grâce, le privilège de marcher même sur les eaux, comme Pierre. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est-à-dire même Dieu amène, eh bien, parce que nous, on n'a aucun pouvoir sur la pluie. La pluie, elle descend d'en haut, c'est la grâce de Dieu, la pluie, c'est la bénédiction de Dieu qui descend et qui agrée, qui nous fortifie, qui nous renouvelle. Et enfin, verset 8, leur force augmente pendant la marche. Et mieux encore, et alors ça nous projette dans l'avenir, et ils se présentent devant Dieu à Sion, ça nous parle du jour où face à face nous verrons le Seigneur Jésus, qui me tarde, alléluia, de voir mon Seigneur Jésus, celui qui m'a aimé. Alors qu'on est en train de louer tout à l'heure, je pensais... faisait très rapidement un volte-face de toute ma marche avec le Seigneur. Que d'amour. C'est pour ça qu'on a eu raison de chanter ce chant, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Cet amour nous a touchés. Seuls les vrais chrétiens comprennent cet amour, vivent cet amour et seront prêts lorsque Jésus-Christ reviendra par le biais de cet amour. On y reviendra en temps et en heure. Alors toi qui es fatigué, eh bien, par la force toute puissante de Dieu, sois maintenant fortifié et renouvelé dans le précieux nom de Jésus. Amen. Une autre raison, peut-être, qui pourrait nous encourager à réaliser que Dieu, effectivement, communique sa force à son Église. Et Dieu le fait parce que nous avons besoin d'être vainqueur de tous nos ennemis. Tout véritable chrétien, quand il commence sa marche avec le Seigneur, très rapidement, très tôt, il réalise que la vie chrétienne, finalement, c'est ni plus ni moins un combat. Vous savez, vous avez entendu, même au début du confinement, le président qui a dit à un moment donné, d'une manière très solennelle, nous sommes en guerre. Mais nous, ça ne nous a pas surpris, dans le sens que, sur le plan spirituel, depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous nous sommes engagés dans une véritable guerre. Nous sommes enrôlés derrière la plus grande et la plus belle des armées, celle du général. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus, c'est le général en chef. Et je dis amen à cela. L'Éternel des armées. Et nous sommes enrôlés derrière lui pour faire face à toutes les puissances des ténèbres, pour faire face au diable. Parce que croyez-moi, le diable et ses démons ne sont pas contents. Écoutez bien, il n'est pas content quand un homme, une femme, même un adolescent se convertit. C'est pour ça qu'il y a tellement d'opposition. Il n'est pas content quand un frère, une sœur se lève d'une manière ou d'une autre pour pouvoir servir le Seigneur. Et pas pour servir pour être vu, mais servir d'un cœur sincère, parce que dans le monde des ténèbres, il le voit ça, le diable. Le diable n'est pas content quand dans une église locale, comme celle d'Istres, eh bien, il y a de l'amour qui est manifeste. Il n'est pas content quand nous sommes unis les uns les autres. Il n'est pas content quand nous sommes dans la paix. Il n'est pas content, frères et sœurs, quand nous nous respectons les uns les autres. Il n'est pas content, eh bien, quand, quelque part, nous exerçons de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Il n'est pas content quand il voit que la compassion règne parmi nous. Il a en horreur ces choses-là. Et c'est pour cela que quelque part le diable se met en campagne contre les véritables enfants de Dieu. Parce que lui aussi fait la différence entre le véritable chrétien et malheureusement le duplicata ou le faux chrétien. Et dans cette affaire, personne ne peut influencer sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui montrons si nous sommes de véritables enfants de Dieu ou si nous ne le sommes pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire ? C'est la vérité. La Bible lui-même, Jésus lui-même a parlé de l'ivraie et du blé. Et il a parlé dans sa maison. Et c'est pour ça que le jour du retour du Seigneur va révéler les véritables enfants de Dieu. Mais tout ça, ça dépend que de nous, ça dépend de notre marche, ça dépend de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Je vous le dis, plus un croyant se consacre à Dieu en marchant dans la piété et la sainteté, et plus ce même croyant s'expose aux attaques du diable. C'est une réalité, et je veux ne faire peur à personne. Et la vérité en plus, c'est que par nos propres forces, on ne peut pas faire face au diable. Même avec toute notre bonne volonté, on ne pourra pas faire face au diable. Par contre, alors bien sûr, il faut quand même bien donner bien l'appareil. La vérité, bien c'est que par la force toute puissante de Dieu, nous sommes capables, alléluia, de vaincre l'ennemi. Nous sommes capables de le terrasser, le mettre KO. Ce n'est pas vraiment nous qui l'avons fait. Il y a déjà plus de 2000 ans de cela, Jésus-Christ à la croix, par son sang qui a coulé, a donné un uppercut à l'ennemi. Ça a été radical. Il est tombé. Il n'a plus aucune puissance. Il a même désarmé la puissance de la mort. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il est ressuscité le troisième jour après sa mort. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il est parti au plus profond et donc des enfers, au plus profond donc du séjour des morts, pour dire à toute la bande d'Abraham, tout ça, on n'avait plus besoin d'être là. Allez, vite. Moi, j'ai vaincu, alléluia, le diable, j'ai vaincu le péché, j'ai même vaincu la mort. Vous, directement au paradis, au sein de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu, il règne. Et il a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Il est sous nos pieds dans le nom précieux de Jésus-Christ. On a besoin néanmoins de la force toute-puissante de Dieu pour faire face à l'ennemi, pour tenir ferme. Et c'est ce qu'on a lu de toute façon en introduction tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Je le relis. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Mais quelqu'un pourrait dire, mais d'accord, mais comment se fortifier dans le Seigneur ? Comment se fortifier par sa force toute puissante ? Ah ben la réponse, elle est juste après, au verset 11. Et c'est ce que notre frère Manu a exprimé avant que je ne puisse intervenir. Revêtez-vous, là l'apôtre Paul donne juste une piste parmi tant d'autres, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et comprenez-moi que c'est le temps qui nous manquerait ce matin pour repasser en revue toutes ces armes. Il y en a 6, même voire 7 en tout, au total. Et je vous encourage à pouvoir relire les versets suivants, du verset 12 jusqu'au verset 18, pour reconsidérer toutes ces armes. Avons-nous le casque du salut sur la tête ? Avons-nous la cuirasse de justice sur notre poitrine ? Avons-nous, par exemple, le zèle que donne le soulier et donc le zèle de l'évangile, les souliers que donne le zèle de l'évangile ? Avons-nous également à nos mains le bouclier de la foi et d'une autre main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ? Avons-nous surtout la vérité pour ceinture ? Avons-nous, et c'est la septième arme, la prière, la vie de prière ? Tout est sanctifié par la parole et la prière. Et ces deux armes, nous les retrouvons dans l'équipement du soldat. Et c'est pour ça qu'on a eu raison de chanter ce premier chant. Dieu a une armée qui se lève. Mon frère, ma soeur, tu vas te lever si et seulement si tu es équipé, si tu es armé. Parce que si tu te lèves sans être équipé, si tu te lèves en pyjama, si tu te lèves en t-shirt, ça n'ira pas. Parce que c'est vrai, celui qui est en face est puissant, mais avec les armes du Seigneur, on est tout puissant. Amen. Dieu veut vraiment que nous soyons conscients de la force qu'il a mise en nous afin que nous soyons vainqueurs de tous nos ennemis. Et Paul lui-même a prié pour que l'église d'Éphèse puisse réaliser la puissance divine que Dieu lui a transmise. Regardez par exemple avec moi Éphésiens chapitre 1, les versets 19 et 20. Et je vous propose de lire même ce passage dans la version Parole vivante. Et regardez ce qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de chacun de nous, qui plaçons notre confiance en lui, c'est-à-dire en Dieu. Verset 20, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons la force nécessaire pour repousser l'ennemi et le faire fuir loin de nous. Et ce serait bon qu'on puisse aussi se rappeler ce que Jésus a dit aussi à ses disciples, mais qui nous concerne également, c'est aussi une autre réalité spirituelle. Luc chapitre 10, verset 19, ne le cherchez pas, il nous est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Frères et sœurs, avec ces paroles-là, qu'est-ce que nous avons encore à craindre? Il nous donne la puissance pour pouvoir marcher sur, il a dit, les serpents et les scorpions. Vous l'avez compris, ce n'est pas au premier degré qu'il faut le comprendre. Il parlait là ici de serpents spirituels, de scorpions, il nous parle de tout ce qui est mauvais, de toute forme de mal. Dieu nous donne la puissance de marcher et de terrasser toutes ces puissances ténébreuses. Et il rajoute, rien ne pourra nous nuire, rien ne peut nous atteindre. Alors, mon frère, ma sœur, quel démon pourrait nous résister ce matin? Quelle puissance, quel ennemi pourrait avoir le dessus sur nous? Quand je pense que dans l'Ancien Testament, on découvre un homme du nom de Samson, qui ne connaît pas Samson, cet homme qui avait une force surnaturelle, vous avez compris qu'il avait la force toute puissante de Dieu. Cet homme, à un moment donné, il est face à ses ennemis, il y en a des milliers en face de lui, il prend une mâchoire d'âne fraîche. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il leur fait du bien. Il les a tous liquidés. Comprenez que c'est surnaturel, c'est miraculeux. Et je fais un parallèle avec nous. Cette mâchoire, elle me parle de notre propre bouche, que le Saint-Esprit, quand il nous saisit, nous donne cette puissance de pouvoir exercer l'autorité du nom du Seigneur. Toi qui es peut-être même agité ou attaqué pendant tes nuits, tu peux prononcer le nom de Jésus. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est une réalité. Qu'as-tu peur? Dieu est avec toi. Et il te donne la victoire. Oui, Dieu donne la force à son peuple pour que nous soyons plus que vainqueurs face à tous nos ennemis. Et nous sommes en droit, dans nos maisons, dans nos familles, de pouvoir, dans le nom de Jésus, chasser toute puissance ténébreuse. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. Il y a cette femme-là qui est en évidence. Et puis à un moment donné, elle prend une résolution avec Dieu. Elle sort de sa maison et puis elle commence à parler à qui veut bien comprendre, mais elle s'adressait au diable. Elle dit, mais tu ne viendras plus ici, hein? À un moment donné, il faut exercer l'autorité que Dieu nous donne. Il nous donne la puissance. Croyez-moi, si dans le monde spirituel, on pouvait voir combien le diable tremble en notre présence. Pas tant par rapport à nous, mais par rapport à la personne qui est au-dedans de nous, c'est-à-dire Jésus. Il craint le nom de Jésus. Prononcez le nom de Jésus, vous allez voir. Jésus, Jésus. Vous allez voir, les choses vont commencer à réagir. Tout ce qui est là à dormir, tout ce qui est là à travailler dans les pénombres, chasser ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Et cela, il faut quand même du discernement parce qu'il ne s'agit pas de voir des démons partout. Hein. Mais quand Dieu nous montre une situation qui n'est pas normale et qui est ténébreuse, nous avons cette autorité, cette puissance de pouvoir dire non, au nom de Jésus-Christ, tu n'iras pas plus loin. Parce que ici appartient à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai parlé de trois raisons. Est-ce que vous êtes d'accord pour terminer avec la troisième raison? Ou est-ce qu'il faut aller manger ou... On a vu ensemble que Dieu communique sa force pour que nous soyons vainqueurs de toutes nos fatigues. On vient de voir que Dieu nous a communiqué sa force pour que nous soyons vainqueurs de tous nos ennemis, physiques, spirituels, tout ce que vous voulez. Personne ne peut nous nuire parce que nous sommes dans le creux de la main du Seigneur, parce que Christ habite au-dedans de nous, parce que nous avons ce pouvoir, cette autorité au travers du nom précieux de Jésus. Je voudrais terminer. Dieu communique sa force pour que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu, efficaces dans notre génération. Je vous en supplie. N'envisageons même pas une seule seconde de pouvoir servir Dieu sans au préalable se revêtir de la toute-puissance d'en haut. D'ailleurs, Jésus, même tout le long de son ministère, la Bible nous dit que Jésus fut oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'il faisait de lieu en lieu? Il faisait du bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il a pu exercer toutes ces choses parce qu'il fut oint du Saint-Esprit et de force. C'est un pléonasme, c'est la même chose. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est bien évidemment rempli de la toute-puissance de Dieu. Et de même, pour servir Dieu, il est impératif que nous soyons les uns et les autres, petits comme grands, remplis de la force toute puissante de Dieu. Paul lui-même, qui annonçait l'évangile, que ce soit aux juifs, que ce soit aux non-juifs, va exprimer la parole suivante, Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29, on a bientôt terminé. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29, c'est lui que nous annonçons, dit l'apôtre Paul, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, il précise, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous tous qui servons le Seigneur, il faut qu'on veille à pouvoir le faire avec la force que Dieu nous accorde. Et ceci dans les moindres choses, pas seulement au niveau de la prédication, je m'adresse aux prédicateurs, tout comme moi, mais aussi ceux qui sont peut-être même à l'accueil. Est-ce que ça vous va, l'accueil de cette église, ça vous va? Ils sont gentils, ils sont souriants. Bon, on ne le voit pas trop avec le masque, hein. Mais je sais qu'il y a une très très bonne écoute. Mais il faut, là aussi, la force du Seigneur. Parce qu'imaginez quelqu'un qui vient et qui est peut-être mal luné ou qui a passé une mauvaise nuit. La première personne que cette personne va rencontrer quand elle va arriver dans le hall, c'est qui? C'est le service d'accueil. Et croyez-moi qu'il faut bien la force du Seigneur pour encaisser quelquefois des mauvaises humeurs, des mauvaises remarques. Seigneur, avec ta force, ta grâce, je peux y arriver. Sois la bienvenue, mon frère, ma sœur. Entre donc. Il faut la force. Pour instruire les enfants, il faut la force spirituelle du Seigneur. Oh, c'est rien, on s'occupe des enfants. Non, il y a un enjeu. Il y a un enjeu auprès de ces enfants. Et plaise à Dieu que nos animateurs, animatrices puissent vivre des choses extraordinaires. Le diable ne veut pas que dès leur jeune âge, ils puissent être ensemencés de la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi des vérités, des principes bibliques à cet effet. On a besoin, finalement, en tout, j'ai envie de dire même pour nettoyer, avoir la force toute puissante du Seigneur, nettoyer, faire le nettoyage. Il faut même la force du Seigneur. Pourquoi? Ben pour bien faire les choses, c'est la maison de Dieu. Et pas laisser la paresse ou bien quelque chose. Allez, il y a une petite poussière, c'est pas grave. Mais on veut bien le faire. Et ça, il faut la force. Je refais la parenthèse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous permette de pouvoir même avoir la force toute puissante de Dieu pour témoigner. Un chrétien, il est appelé à témoigner. Un véritable chrétien qui a rencontré, il a envie, à un moment donné, de pouvoir partager ce qu'il a rencontré, ce qu'il a expérimenté avec Jésus, le partager autour de lui. Peut-être même en silence, même bien en restant bien dans la discrétion, continuer à parler, à témoigner de Jésus. Et la Bible nous dit bien que le Seigneur Jésus lui-même, donc lui-même le dit, il a prévu pour l'Église d'être revêtu de la puissance d'en haut, afin que nous soyons des témoins efficaces dans notre génération. J'ai envie de nous dire, frères et sœurs, n'ayons de cesse de témoigner de Jésus. Servons le Seigneur en parlant de Jésus autour de nous. Les gens sont contrariés, les gens sont agressifs, les gens sont peut-être dans la tristesse. Ouvrez votre bouche, ouvrons notre bouche et témoignons de Jésus-Christ. Peu importe nos faiblesses, peu importe si on sait parler ou pas, Justement, c'est dans notre faiblesse que le Seigneur, il se plaît à se glorifier. Regardez ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul et que ce dernier a daigné nous rapporter. Quand on lit, par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, regardez ce qu'il est écrit. Il était là à prier Dieu, Seigneur, voilà, il avait une faiblesse dans sa chair. Certains commentateurs disent qu'il était, il y a des problèmes au niveau des yeux. Et il a prié Dieu trois fois, « Seigneur, viens me délivrer de ça. » Et puis Dieu lui répond. Et il dit, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans quoi ? Dans la faiblesse. » Et il rajoute, l'apôtre Paul, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quelque part, la vérité, elle est la suivante. Plus nous sommes faibles, plus la force divine sera visible en nous. Frères et sœurs, là où j'ai vu le plus de miracles, c'est auprès d'un évangéliste qui ne savait ni lire ni écrire. Il est aujourd'hui auprès du Seigneur. Il a servi en son temps. Et cet homme, je peux le dire, il s'appelle Archange Ch'tenegri. Et c'était sur la région parisienne. Ça a été toute mon enfance. Et c'est là où je vous ai dit, j'ai vu des miracles. Des gens qui venaient en chaise roulante, qui repartaient en courant, des gens qui étaient atteints du sida, qui étaient guéris, des gens atteints du cancer, la prédication n'était même pas encore terminée, qui criaient, des gens, des nouvelles personnes qui venaient, et qui ont été littéralement guéris, des gens en pleurs. Et croyez-moi, ces gens, après, ils avaient leurs oreilles qui s'agrandissaient pour écouter l'évangile. Et plusieurs se sont convertis, ils ont été touchés par cela. Mais cet homme, cet évangéliste, ne savait même pas lire. On faisait venir une sœur sous l'estrade et elle introduisait le frère eh bien, en lisant un passage. Il ne savait pas. Il écorchait le français, comme ça m'arrive à des moments. Mais c'était quand le Saint-Esprit prenait le relais, frères et sœurs. C'était le ciel sur la terre. Et je prie Dieu que nous puissions également vivre ces choses. Tout ça, je vous le dis, parce qu'il ne faut pas regarder eh bien, nos faiblesses. Eh bien oui, Moïse a dit, mais moi je ne savais pas, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ? Il a dit, mais moi je ne sais pas parler. Mais Dieu a dit, mais oui, mais c'est toi que je veux. Vous savez, quelqu'un qui pense qu'il a tout, qu'il est capable, le Seigneur le met de côté. Mais il faut peut-être eh bien, s'approcher de Dieu d'une manière humble, un petit peu comme Gédéon. Gédéon, à un moment donné, Dieu lui a dit, ben, tu sais que je t'ai choisi pour délivrer le peuple d'Israël devant l'ennemi, les Madianites à l'époque. Et lui, il a cru rêver. Peut-être qu'il a cru même qu'on se moquait de lui. Quand l'ange lui a dit ça, oui, tu as été choisi. Et c'est alors qu'il va dire, mais Seigneur, moi, qui suis-je ? Qui suis-je ? Mais le Seigneur va lui dire, va avec cette force que tu as. Et quand Dieu a dit, va avec cette force que tu as, il ne parlait pas tant des capacités que pouvait avoir Gédéon. Quand il dit « va avec cette force que tu as », certainement parlait-il, eh bien, donc cet ange, certainement donc faisait-il mention eh bien, de l'humilité qu'a pu montrer peut-être Gédéon. « Seigneur, je suis la plus petite des familles en Israël. Qu'est-ce que tu regardes ton serviteur comme celui qui va délivrer le peuple d'Israël ?» Il ne comprenait pas. Et puis, quand le Seigneur lui a dit « va avec cette force que tu as », certainement Dieu faisait allusion à bien cette foi qu'il a mis à valoir pour pouvoir saisir le fait que Dieu l'avait choisi, mais aussi saisir le fait que Dieu lui a dit « Je serai avec toi et tu battras Madian ». Voilà juste la force que Dieu demande pour pouvoir le servir. Juste que nous puissions nous réfugier en Dieu et dire « Mais Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, alors je sais que tout est possible ». Avec ta force, je puis tout. Un petit peu ce qu'a dit eh bien, l'apôtre Paul quand il a dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quel que soit l'appel que Dieu a placé sur ton cœur, ne regarde pas à tes propres forces, ne regarde pas à tes capacités, mais si réellement c'est Dieu qui t'envoie, et si réellement tu as compris que Dieu sera avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Parce que le Seigneur va suppléer à tes faiblesses et va te permettre au travers de toi, de glorifier son nom à lui. Parce qu'il n'est pas question de prendre la gloire qui revient à Dieu pour nous l'attribuer. Amen. Ça, c'est tellement, tellement important. Que dire en conclusion ? Eh bien, on a juste vu quelques deux, trois raisons qui ne peuvent que nous montrer que Dieu, eh bien, il se plaît à pouvoir communiquer sa force à son peuple. Il la communique à peut-être quelqu'un qui est fatigué, lassé ce matin. Il la communique aussi pour que nous soyons plus que vainqueurs face à tous nos ennemis. mais il nous la communique pour que, même dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, que nous puissions être ces témoins de Jésus-Christ les uns et les autres. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide à les vivre. On a besoin de la force toute puissante pour aller jusqu'au bout du voyage. Jésus est à la porte. Et il nous faut cette force, ce courage, cette foi pour pouvoir persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre et que nous puissions décoller. Prions ensemble le Seigneur. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce que tu as daigné encore nous rappeler encore en ce matin. Merci encore Seigneur mon Dieu. Parce que sans ta force, que pourrions-nous faire ? Toi-même tu l'as dit à tes disciples, sans moi vous ne pouvez absolument rien faire. C'est vrai, nous ne pouvons pas produire du fruit, nous pouvons, Seigneur, rien faire qui puisse réjouir le cœur de Dieu. Mais avec ta force toute puissante, tout est faisable. Tu nous donnes à être plus que vainqueurs, Seigneur, sur tous nos ennemis. Et tu vois les ennemis dans l'ombre, Seigneur, qui essayent de nous arrêter, nous freiner, nous décourager. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ta force pour pouvoir continuer à te servir. Là où tu nous places, comme des stratégies, mon Dieu, dans cette ville et même à l'extérieur de cette ville, que nous n'ayons de cesse de parler de ton beau nom et continuer à te servir dans notre génération. Mais tu nous rappelles ce matin, Seigneur mon Dieu, que tu donnes la force à ton Église, particulièrement à ceux et celles qui ce matin peuvent être languissants, fatigués, éreintés. Seigneur, je te prie d'apporter ta guérison, ton baume, et de passer dans les rangs, et de revigorer, fortifier celui qui est fatigué, abattu, celui qui est venu chercher réponse auprès de toi ce matin. Tu as dit toi-même, tu envoies ta parole et tu les guéris, alors qu'il en soit ainsi encore en ce matin. Au nom de Jésus, Amen et Amen.